Nous allons commencer cette séance de conversation et en même temps une séance de travail. Ça va être très sérieux. Nous allons travailler. Je voudrais vous remercier d'avoir répondu à cette invitation et je voudrais remercier Linda Lay d'avoir accepté de se prêter à cette conversation. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je voudrais simplement donc rappeler en quelques mots l'itinéraire de Linda Lay qui a publié à l'automne dernier très beau livre In Memoriam qui faisait suite à de nombreux ouvrages déjà parus, dont je vous redonne simplement les différents titres. Les évangiles du crime, calomnie, l'édit d'un idiot, les trois parcs, voix, lettres mortes, les aubes, autre jeu avec le feu, personne, Chris, Conte de l'amour Bifron, le complexe de Caliban. J'espère que je n'oublie pas. Rappelez également que Linda Lay est née au Vietnam en 1933. 1963, pourquoi ?
Oh, mais ça me parle aussi.
Il va falloir que je m'explique sur ce lapsus. Donc 1963 bien sûr, pays qu'elle a quitté en 1977, n'est-ce pas?
Oui.
Née à Dalat, puis ayant vécu avec sa famille à Saïgon, quittant le Vietnam donc en 1977 pour arriver d'abord en France au Havre, puis ensuite à Paris où se nouent un certain nombre de choses, de rencontres, Cioran, d'autres que nous pourrons peut-être évoquer, je ne sais pas. Ce parcours biographique a une valeur qui n'est pas seulement d'ordre informatif, je dirais, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. Mais je crois que cela aussi, on le voit bien à lire et à relire les ouvrages de Linda Lay, une valeur de matrice, d'entraînement, de quelque chose qui a mis en mouvement un trajet d'écriture, une expérience d'écriture. Mais Linda en parlera mieux que moi, bien entendu. Et nous avons donc imaginé un petit scénario très simple de ponctuer notre travail de différentes lectures qui peuvent constituer pour chacune d'entre elles un lieu d'écho, de questions, de relance. Et je vais donc proposer à Linda peut-être de commencer. Linda a choisi de lire d'abord un texte de Roger Laporte, n'est-ce pas?
Oui, c'est un texte de Roger Laporte qui est extrait de son dernier livre, Moriendo. Poursuivre est un impératif auquel il faut répondre, et non point une énigme à déchiffrer. Je ne parviendrai donc jamais à comprendre pourquoi, vraiment pourquoi écrire, ou plutôt cette modalité d'écrire sans laquelle jamais je n'aurais parlé de biographie, achemine vers l'inconnu, l'étranger à jamais, vers je ne sais quoi d'insupportable, auquel pourtant je demeure lié par serment, mais aussi par désir. Si je garde l'esprit et le cœur tournés vers ce point extrême, si j'ai constamment le souci du langage le plus juste, des pensées me viennent qui me feraient un chemin, mais un chemin de moins en moins praticable. je ne puis avancer davantage, faute de la force ou du courage nécessaire pour penser l'épreuve, pour supporter une souffrance encore plus aiguë qui pourtant ne serait pas l'ultime. Loin de la terre des hommes vers laquelle je ne puis ni ne veux revenir, loin de la zone d'effondrement vers laquelle j'aurais dû retourner, resterai-je paralysé, coincé dans cet entre-deux, prisonnier d'un piège qui pourtant n'existe pas. La persévérance stérile avait fait place à une patience nue, sans limite. Mais à ma propre surprise, j'en vins à penser que si le désœuvrement, une souffrance par conséquent sans nom, était mon destin, je l'acceptais et même je l'aimais. Je ne suis pas passé sur l'autre rive. La séquence n'a pas pris fin. La souffrance ne s'est pas dissipée, mais j'ai connu un semblant de sérénité. Quelque courage m'a été redonné, mais de nouveau, je suis seul et je crains d'être incapable de répondre à la longue attente. Une fois encore, il me faut franchir les portes de l'effroi, non pour les dépasser, pour parvenir au cœur royal du labyrinthe, mais seulement pour m'approcher de ce qui demeure, de ce qui demeurera à une distance infime, infinie, pour me retrouver par conséquent à l'orée d'une douleur dont je ne sais rien, dont sans doute jamais je ne saurai rien, si ce n'est qu'elle garde mon secret, un secret de vie et de mort. Aurais-je donc pénétré une seule fois dans cette zone interdite, où biographes et signataires auraient pu ensemble disparaître, dans cette région fermée où le pressentiment d'une fin prochaine n'a peut-être été qu'un moyen illusoire d'échapper pour un temps à un supplice sans fin et peut-être sans vérité. Je l'ignore. La réponse, jamais je ne la connaîtrai, aurait été donnée si j'étais parvenue au bout de mon aventure, jusqu'à cette épreuve inconnue en regard de laquelle tout ce que j'ai subi jusqu'à ce jour, même le plus dur, n'aurait été que parodie. Mais cette épreuve, je l'ai affirmé plus d'une fois, a déjà avorté en un autre temps et provoqué un inimaginable désastre dont ma misère est le lointain contre-coup. Faut-il vraiment désespérer que l'histoire tourne autrement, qu'il y ait encore une chance, même faible, de trouver le mot de passe, de parvenir à la délivrance, ou bien, comme à présent je suis disposée à l'admettre, dois-je non seulement consentir, mais participer à la répétition accablante, à l'aggravation de « mais de quoi au juste ?» et pourquoi ? Comment m'approcher davantage ? En ne taisant pas plus longtemps ce que j'ai volontairement passé sous silence, ce que je crains le plus, le retour de l'écart, de cet écart qui a rompu le but, brisé la douleur vers laquelle cependant je me tourne et m'achemine en vacillant, ce lieu indécis, sans contour, sans abord, unique pourtant, qui ne cesse d'errer autour de sa propre figure. Cette oscillation immobile, je l'ai découvert depuis longtemps, mais je l'ai trop occultée, touche à la racine du malheur. Si je ne réprimais plus la douceur, la violence d'un tremblement infime, incessant, j'apprendrais sans doute que l'écart, la chose en souffrance, pourtant inconciliable, relève d'une même douleur qui durera jusqu'à la fin du monde. Loin de moi, tout près, qui donc exhorté et supplié, au tout dernier moment, ne te détourne pas, en dépit de l'effroi immense.
Merci pour cette première lecture, Linda. Je voudrais dire immédiatement dans la foulée de ce qu'on vient d'entendre, de ce texte magnifique d'un écrivain aujourd'hui un peu oublié, un peu effacé. Je trouve qu'il éclaire parfaitement la raison pour laquelle j'étais personnellement content qu'on organise cette soirée, parce que vous entendant lire ce texte, je me disais que dans le paysage littéraire qui est le nôtre aujourd'hui, vous êtes, Linda, vous êtes une des rares personnes à donner au lecteur le sentiment d'être relié encore non seulement à la bibliothèque, ce qui est déjà une grande chose, mais relié à un certain lieu de la bibliothèque dont il est difficile de parler, très difficile de parler, dont il est peut-être impossible de parler, et d'une certaine manière, c'est l'enjeu de ce texte que vous venez de lire, et qu'on pourrait caractériser par opposition, d'une manière très caricaturale, par opposition à une littérature dite de distraction, de voyage, et qui a d'ailleurs sa place dans votre univers. On le voit bien en lisant, par exemple, ce recueil du complexe de Caliban. Vous évoquez Stevenson, parmi d'autres, mais qu'on pourrait caractériser comme un lieu d'expérience, c'est-à-dire où les choses ne sont pas données dès le départ, suivant un répertoire de codes que l'on peut utiliser, dont on connaît la grammaire, mais où les conditions de départ, les conditions de la création sont immédiatement soumises à une expérience peut-être de dépossession, de dénuement, et qui, bien sûr, nous entraîne dans ce lieu très, dans cette zone, dans ce territoire très particulier à la bibliothèque, où certains noms se retrouvent. Ce sont des noms que l'on croise chez vous. Je pense à Tsvetaeva, dont d'ailleurs nous lirons peut-être un texte tout à l'heure, mais aussi Stieg Dagerman, mais aussi Ingeborg Bachmann, des gens qui comptent pour vous. Est-ce que vous rejoignez à travers la lecture de ce texte ce que je dis là, enfin, est-ce que vous vous retrouvez dans cette approche de la littérature?
Je crois que ce qui me touche le plus dans ce texte de Roger Laporte, qui n'est pas pour moi un écrivain oublié, mais un écrivain qui s'est toujours retranché dans la solitude, ce qui fait qu'il a une poignée de lecteurs, mais ce sont peut-être les meilleurs, et, les fameux happy few. Et sa vie a été consacrée à l'écriture de ce qu'il appelle tantôt sa biographie, tantôt sa thanatographie. Et ce qui me touche chez Roger Laporte, c'est cette exigence d'écrire, mais comme il dit, à chaque fois, il faut franchir les portes de l'effroi. Il y a dans l'exigence d'écrire à la fois de l'attrait, mais en essayant aussi d'éviter de vouloir séduire à tout prix. Et il y a aussi une grande part d'effroi devant l'audace d'une telle entreprise. Et l'effroi aussi, sans doute, d'affronter ses doubles, que ce soit... ces doubles, que ce soit les écrivains que nous lisons, ou ses propres démons dont il faut sur lesquels on doit opérer une sorte d'exorcisme. Et je crois que j'ai toujours conçu l'écriture comme une forme de conjuration. Et mais les fantômes sont toujours là, que ce soit les chairs disparues qui sont les auteurs qu'on exhume, ou les absents qui sont toujours présents.
Enfin, Parce qu'il y a une chose qui, je trouve, est assez frappante aussi à la lecture de ce texte de Roger Laporte, c'est au fond la confrontation de deux choses qui sont, j'allais dire, diamétralement contradictoires l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on a à la fois une expérience d'intimité, quelqu'un qui a affaire à lui-même, au plus intime de lui-même, et qui en même temps ressent cette intimité comme un lieu d'ignorance. C'est-à-dire qu'à la fois, il sait parfaitement qu'il est confronté à quelque chose de très précis, qui le concerne lui et personne d'autre, et en même temps, il ne sait rien. En même temps, il est exposé à une sorte d'ignorance radicale. Il le dit à un moment, il dit « il y a un secret qui me concerne moi, mais peut-être je ne saurai jamais ce que contient ce secret. »
Je crois que c'est peut-être le paradoxe de l'écriture, c'est que nous partons toujours de nous-mêmes. C'est un point d'ancrage et en même temps, ce soi-même disparaît au moment où l'on écrit. Et c'est vrai que une des expressions que je préfère et qui est le titre d'un recueil d'Armand Robin, c'est « Ma vie sans moi ». Comment écrire ma vie sans y être, mais en tâchant d'aller quand même au bout de soi. Et l'écriture est une expérience un peu à la fois de dépossession et de, mais aussi de reconquête. À partir du fait que j'écris à partir de moi-même, mais je ne sais pas qui je suis au moment où j'écris. Et c'est cette exigence d'écriture qui commande tout. Peut-être aussi, il y a une forme de, je dirais pas de névrose, parce que je ne sais pas ce que signifie la névrose qui serait prétendument à l'origine de l'écriture, mais il y a une sorte de maladie, la maladie d'écrire. Et dont on attend une certaine guérison à travers les mots, peut-être une réparation, que ce soit du deuil, de l'absence d'une transcendance, de l'absence de l'autre. Et ce qui me touche aussi dans le texte de Roger Laporte, c'est que ce sont presque ses derniers mots, c'est presque un testament. Donc, il décide d'arrêter d'écrire. Et c'est une des interrogations aussi qui m'ont toujours taraudée, c'est la tentation du silence, et à partir d'un certain moment, pourquoi on décide qu'on en a fini avec la littérature, qu'on en a fini avec les mots, qu'on tire le rideau. Il y a des exemples nombreux et célèbres.
Vous dites la tentation du silence.
La tentation du silence, oui. Comme si le silence parler plus fort presque que ce qu'on pourrait... comme si le silence parlait plus fort que ce qu'on pourrait trouver à dire et à... pour conjurer une certaine incapacité à... à vivre à travers les mots.
Est-ce que vous... Enfin, c'est une... évidemment une question. Est-ce que vous ne pensez pas que cette tentation du silence à laquelle on peut succomber dans certains cas n'est pas aussi... une sorte de corps à corps, un débat, une confrontation avec, j'allais dire, le contraire du silence, et non pas forcément le bavardage, mais le problème de la forme. À partir du moment où on décide d'entrer en écriture, de se livrer au langage, et inévitablement aux événements qui vont en découler, forcément. Est-ce que cette question de la forme, je fais exprès de prononcer ce mot, de forme, n'est pas une... justement, peut-être l'effroi majeur.
J'aime le mot corps à corps, c'est vrai, plutôt l'expression corps à corps, parce que j'ai l'impression que... le travail sur les mots, justement le mot forme me gêne un peu parce que j'ai l'impression que ça peut supposer des fioritures, quelque chose, une certaine habileté aussi. Et je n'aime pas beaucoup les livres où l'on sent l'habileté, on sent la fabrique presque. Donc et c'est peut-être le moment où le corps à corps devient impossible qu'il y a la tentation du silence, comme si on mettait fin à... comme si on mettait une très grande distance avec les mots et qu'on cesse de croire en leur pouvoir.
Parce que la tricherie est plus forte.
Je pense
parce qu'il n'y a pas de vérité dans le langage.
Je crois que c'est plutôt les moments de doute, mais quelqu'un comme Louis-René Desforêts a très bien écrit sur cette espèce de suspicion qu'on peut ressentir à un certain moment et l'idée qu'on ne croit plus à la puissance démiurgique du verbe. Est-ce que le verbe peut sauver? Est-ce qu'on, justement, si l'on ne s'attache qu'à la forme, même si elle permet une maîtrise, si l'on ne s'attache qu'à la forme, est-ce qu'on ne tomberait pas dans le verbalisme? Et c'est tout le... C'est en creux ce que dit aussi le bavard de Louis-René Desforêts.
Ça me fait penser à un autre texte dont nous avons parlé quand nous nous sommes vus pour préparer cette soirée, un texte de Roland Barthes qui dit à peu près, je cite de mémoire, c'est un passage qui figure dans Le plaisir du texte, petit livre de Roland Barthes paru dans les... début des années 70, il parle de Georges Bataille, de ces textes terribles qui tentent de dire, d'exprimer l'impossible, ce que le mot d'impossible signifie pour Bataille, et qui, au final, constate que les textes les plus terribles ont toujours avec eux une part de coquetterie.
Oui, mais il dit aussi, vous m'avez fait lire le texte, il dit, ces textes sont terribles, s'ils veulent être lus.
S'ils veulent être lus, exact. Donc, c'est une parenthèse. C'est,
s'ils veulent être lus, donc ouais. Je crois que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'est vrai que c'est le danger, si on veut séduire à tout prix, attirer le chaland, et
mais est-ce
comment dire, travestir presque ce qu'il y a de terrible dans un texte, ou l'adoucir, ou presque l'édulcorer.
Est-ce que vouloir être lu équivaut à emballer le chaland?
Je pense qu'un livre, on ne peut pas mentir en disant que j'écris un livre sans vouloir être que ce livre soit lu, c'est évident. Mais je n'ai jamais écrit en pensant à un lecteur, qu'il soit idéal ou qu'il soit un important qui m'auspie pour me diriger dans telle ou telle direction, en me disant que là, j'agacerai un lecteur qui aimerait un livre plus allègre. Non, je ne songe jamais au lecteur. Je suis très heureuse une fois que le livre est terminé de connaître la vie, les réactions de ceux qui le lisent. Mais à ce moment-là, presque, le livre ne m'appartient plus. Et donc, je suis heureuse de la réaction comme si on me parlait d'un livre. Je ne sais pas, je ne me comparerai pas à Roger Laporte, mais comme si on me parlait d'un livre de Roger Laporte. Donc, et ce que dit Roland Barthes, c'est vrai, s'ils veulent être lus, je pense qu'il ne faut pas que cette idée précède l'écriture.
Je vous propose que nous lisions ce deuxième texte.
Oui, qui est d'une certaine manière, qui est un texte très, très...
Qui n'est pas étranger à la conversation qu'on vient d'avoir.
Oui, oui. C'est un texte, c'est une lettre de Melville à Hawthorne, une lettre du 1er juin 1851, et Melville est en train de terminer Moby Dick. Je parlais de la baleine. Elle était dans ses tresseaux, comme disent les pêcheurs, quand je l'ai quittée voici quelques 3 semaines. Je vais néanmoins la prendre par la mâchoire, avant qu'il soit longtemps, et je l'achèverai d'une façon ou d'une autre. À quoi bon fignoler ce qui, de par son essence même, est d'aussi courte vie qu'un livre moderne? Quand bien même j'écrirai les évangiles en ce siècle, je finirai dans le ruisseau. Je ne fais que parler de moi, et c'est de l'égoïsme et de l'égotisme, je vous l'accorde. Mais comment m'en empêcher? Je vous écris, je sais peu de choses de vous, j'en sais plus long sur moi. J'écris donc sur moi, au moins en m'adressant à vous. Mais ne vous mettez pas en peine d'écrire des lettres, ni de faire des visites. Et quand vous me ferez toute même visite, ne vous mettez pas en peine de parler. Lettres, visites, parlotte, je me charge de tout. À propos, dans le dernier Dollar Magazine, j'ai lu Le péché sans rémission. Sombre gaillard que c'est Ethan Brown. Je ne doute pas que vous soyez responsable à cette heure de bien des frissons et des émois dans la tribu du grand public. C'est un effroyable credo poétique que celui qui veut que la culture des ménages dévore le cœur. mais c'est mon opinion prosaïque que dans la plupart des cas, chez ceux qui ont une bonne cervelle et qui en font un bon usage, le cœur s'étend jusqu'aux cuisses. Et quoique vous les fumiez au feu des tribulations comme de vrais jambons, la tête n'en est que plus richement savoureuse. Je suis pour le cœur, qu'on donne la tête aux chiens. J'aimerais mieux être un hurluberlu avec un cœur que Jupiter olympien avec sa tête. La raison pour laquelle la grande masse des hommes craignent Dieu et au fond le détestent, c'est qu'ils n'ont guère confiance en son cœur et l'imaginent tout cerveau comme une montre. Vous remarquerez que j'affecte d'une majuscule le pronom qui se rapporte à la divinité. Ne trouvez-vous pas qu'il y a un soupçon de flagornerie dans cet usage ? Autre chose, j'ai passé 24 heures à New York l'autre jour et j'ai vu un portrait de NH. Et j'ai vu et entendu maintes allusions flatteuses du point de vue d'un éditeur aux sept pignons. Et j'ai vu des contes et l'annonce d'un nouvel ouvrage de NH. De sorte qu'en somme, me suis-je dit, ce NH est à l'ascendant. Mon cher, on commence à vous patronner. Tout renom tient du patronage. Laissez-moi être un sans-nom. En cela, point de patronage. La réputation qu'a ce HM est abominable. Songez-y. Passer à la postérité est déjà inquiétant, de toute manière. Mais y passer en tant qu'un homme qui a vécu parmi les cannibales. Quand je parle de postérité en ce qui me concerne, je ne pense qu'aux marmots qui naîtront immédiatement après que j'aurai rendu l'âme. Je parviendrai à quelques-uns d'entre eux selon toute vraisemblance. On leur donnera peut-être taipi avec leur pain d'épices. J'en suis venu à regarder cette affaire de Renaud comme la plus transparente de toutes les vanités. Je lis Salomon de plus en plus et je découvre chaque fois chez lui des significations de plus en plus profondes, inexprimables. Je ne pensais pas au renom, voici un an, de la même façon qu'à présent. C'est que tout mon développement s'est accompli dans l'espace de ces quelques dernières années. Je suis comme l'une de ces graines tirées des pyramides d'Égypte et qui, après avoir été pendant 3 millénaires une graine et rien qu'une graine, une fois plantée en sol anglais, se développe, verdoie, puis tombe en pourriture. Ainsi de moi-même, je n'ai connu jusqu'à 25 ans aucun développement. C'est de ma 25e année que je date ma vie. Il ne s'est guère écoulé 3 semaines, à aucun moment, entre cette époque-là et maintenant, pendant lesquelles je ne me suis pas développée intérieurement. Mais je sens que j'ai atteint à présent la couche la plus profonde du bulbe et que bientôt la fleur se flétrira. Il me semble, à cette heure, que si Salomon fut l'homme le plus véridique qui ait jamais parlé, néanmoins, il a un peu arrangé la vérité, eu égard au conservatisme populaire, à moins que le texte n'ait été l'objet de force adultération et interpolation. En lisant certains propos de Goethe, tant vénérés de ses fidèles, je suis tombée sur ce « vie dans le tout », c'est-à-dire « votre individualité séparée ne vaut rien ». Bon, mais sortez de vous-même, déployez-vous, et faites vôtre les tressaillements de vie qui sont ressentis dans les fleurs et dans les bois, dans les planètes Saturne et Vénus et dans les étoiles fixes. Quelle sottise ! Voici un gaillard qui souffre d'une rage de dents. « Mon brave, lui dit Goethe, cette dent vous tourmente cruellement, mais vivez donc dans le tout et vous serez heureux. » Comme avec tous les grands génies, il y a une immense part de boniment chez Goethe, et à proportion de mon contact avec lui, il y en a une immense part aussi chez moi. Herman Melville.
C'est une lettre d'Herman Melville, adressée par Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, à Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, autre écrivain américain, l'auteur notamment de
La lettre écarlate.
De La lettre écarlate, des sept pignons et d'un. De plusieurs contes qui ont été traduits, très bien traduits en français à l'Imprimerie nationale dans un volume qui est disponible. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce texte, Linda ? Pourquoi vous l'avez choisi ?
Son humour. son humour et son irrévérence. Et oui, il y a quelque chose d'irrévérencieux et aussi qu'il y a quelque chose de fraternel aussi entre deux écrivains, ce qui est très rare.
Et, oui, c'est plutôt la méfiance qui règne habituellement ou la rivalité, disons.
Mais... En général, ils se regardent en chien de faïence, mais là, il y a à la fois de la du respect et une ironie. Et je crois que peut-être qu'il y a peut-être moins ça chez Roger Laporte, mais il y a quand même par moments Roger Laporte est plus dans la souffrance d'être par moment, de se sentir par moment dans une impasse. Et tandis que Roger Laporte, tandis que là, Melville, on reconnaît aussi dans beaucoup de ses livres, même si Moby Dick est un livre assez effroyable, cette manière de parler à la légère aussi de la littérature.
Cette question de l'ironie ou de l'auto-ironie, d'ailleurs, on pourrait dire, dans le cas de cette lettre que vous venez de lire, cette question de l'ironie, elle est importante pour vous. Je pense par exemple à un de vos livres que j'ai relu avant qu'on se retrouve ce soir, Les Trois Parcs. Il y a une sorte de jubilation dans l'ironie dans ce livre qui m'a d'ailleurs fait penser aussi à un autre écrivain que vous n'évoquez pas mais qui m'a paru tout à coup très proche de vous, c'est Gombrowicz.
Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Gombrowicz, mais c'était un écrivain qui était très important pour moi quand j'avais une vingtaine d'années. Mais Les Trois Parcs, c'est un livre qui appartenait à une époque, c'était une veine imprécatoire et très féroce. C'était plus que de l'ironie, il y avait beaucoup de férocité. Et c'était une férocité assez qui m'a beaucoup libérée aussi.
Oui, il y a quelque chose d'un peu allègre dans cette férocité,
dans ce livre. Oui.
Et donc c'est intéressant de voir comment... à un certain moment de l'expérience du travail d'écriture intervient cette puissance de l'ironie, car c'est quelque chose qu'on ressent comme une puissance, comme une force qui contribue à quelque chose, qui contribue probablement à l'accouchement d'une vérité. J'aime ce mot dans la lettre de Melville, il parle à un moment de l'écrivain véridique.
Mais il dit aussi qu'il y a toujours une part d'embodiment.
Oui. Oui. C'est là où on retrouve justement.
Comment un livre peut toujours tendre vers l'absolue vérité et qu'en même temps la maxime ciselée comme celle de Goethe peut finalement apparaître comme un embodiment parce que est-ce que cela vous est d'un certain secours? Voilà, et est-ce que les livres peuvent être d'un certain secours, d'abord pour l'auteur lui-même et ensuite pour le lecteur?
Cela me fait penser à un autre écrivain que vous avez rencontré, qui est Cioran.
Qui avait toujours des formules à l'emporte-pièce pour balayer... tout, mais ce que j'ai appris à l'école de Cioran, c'est justement cette ironie qui interdit tout apitoiement sur soi. Il m'a aidé beaucoup à regarder les choses avec une distance ironique. Tout en usant beaucoup de paradoxes mais il m'a aussi appris autre chose, c'est la manière de vivre toujours en étranger. Je ne parle pas seulement d'être étranger, c'est-à-dire d'une origine autre, un étranger venu d'ailleurs, mais de vivre en étranger. Et,
de ne pas étranger, coïncider.
Voilà, ne pas, de vivre en étranger par rapport à l'ordre, à un certain ordre, à un certain monde tel qu'il est.
À la langue elle-même.
À la langue elle-même, oui.
Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de, j'allais dire, de conjurer une autre tentation possible, qui serait la tentation autobiographique, par exemple, au sens strict ?
Oui, je me refuse la plupart du temps à écrire des autobiographies, parce que je pense que la difficulté est de transmuer bien entendu il y a des éléments de ma vie qui se retrouvent ça et là dans les livres. Mais je me suis toujours gardée de cette tentation d'écrire des livres où seraient livrés de manière brute l'autobiographie. Je pense, pour ma part, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Léris, qui d'ailleurs je ne pense pas que Fibri et les autres livres soient strictement autobiographiques au sens où on déballe, où il déballerait sa vie. Mais je crois au pouvoir de la fiction.
C'est-à-dire
au pouvoir de... Ce que la fiction permet, c'est de prendre distance avec soi, aussi de prendre le large, je crois, de larguer les amarres, de prendre le large et de voir les événements de sa vie de très loin.
Autrement dit, ce n'est pas une question d'imagination. Pas forcément.
Ça peut l'être. Je pense que j'utiliserais plutôt le terme de transfiguration. Non pas dans le sens où ce serait idéalisé, mais où transfigurer des motifs qui seraient usés si on s'en tient à... au fait brut.
Ce sont des choses qu'on ressent tout à fait à la lecture de vos livres, et c'est d'ailleurs assez étrange, et c'est une des raisons d'ailleurs qui m'ont fait penser à Gombrowicz.
ce sentiment, est-ce que c'est cette transfiguration dont vous parlez, je ne sais pas, mais le sentiment que le récit, la fiction, n'est pas pour autant une histoire. Enfin, je veux dire par là que les personnages qui figurent dans vos livres, comment dire ça ? Au fond, c'est un peu comme si vous contourniez ou vous évitiez le piège de la psychologie. Il n'y a pas de psychologie dans vos livres.
Non, je me refuse.
La psychologie qui serait justement encore un reliquat du fait brut, d'une espèce de réalisme au fond. Vous n'êtes pas une réaliste.
Non, je crois que le réalisme psychologique est à mes yeux, une plaie quand il s'agit d'écrire. Donc, il faut l'éviter à tout prix. Je crois que les livres que j'ai pu écrire, même les plus. Même ceux qui ont été écrits sous l'emprise de la colère, sous l'emprise d'une certaine indignation, comme les trois parcs, ou sous l'emprise aussi d'un certain sentiment d'être projeté hors du monde, de ne plus n'avoir plus de ne plus appréhender la réalité. Tous ces livres ont un caractère onirique. Mmh. Et je crois que c'est aussi parce que j'ai beaucoup lu Nerval, qui était un auteur important pour moi dès l'adolescence. Donc, même les livres qui ont trait à des événements, ce qu'on appellerait des perturbations dans l'existence, ont toujours veillé à. J'ai veillé à les garder. Leur garder un caractère. De rêve. Mmh.
Est-ce que vous voulez qu'on lise le troisième texte ?
Le troisième texte qui est une lettre de Marina Svetayeva à Rilke. Svetayeva, à ce moment-là, est exilée en France et elle écrit à Rainer Maria Rilke, qui lui-même est réfugié à Sierre, en Suisse. Et c'est un texte qui est, pour moi, un manifeste. C'est juste un extrait de cette lettre du 6 juillet 1926. « Cher Rainer, Goethe dit quelque part qu'on ne peut rien réaliser de grand dans une langue étrangère. Cela m'a toujours paru sonner faux. Goethe, dans son ensemble, sonne toujours juste. Il n'est valable qu'en tant que somme. C'est pourquoi je suis injuste en ce moment envers lui. Écrire des poèmes, c'est déjà traduire de sa langue maternelle dans une autre. Peu importe qu'il s'agisse de français ou d'allemand. Aucune langue n'est langue maternelle. Écrire des poèmes, c'est écrire d'après. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'on parle de poète français ou russe, etc. Un poète peut écrire en français, il ne peut pas être un poète français. C'est ridicule. Je ne suis pas un poète russe, et c'est toujours un étonnement pour moi d'être tenu pour tel, considéré comme tel. On devient poète, si tant est qu'on puisse le devenir, qu'on ne le soit pas tous d'avance, non pour être français, russe, etc., mais pour être tout. Ou encore, on est poète parce qu'on n'est pas français. la nationalité est forclusion et inclusion. Orphée fait éclater la nationalité ou l'élargit à tel point que tous, présents et passés, y sont inclus. Le bel Allemand que voilà, le beau Russe.
Là, c'est la question de la poésie. Là.
Mais je pense qu'elle parle de manière générale sur, aussi sur quelle définition donnerait-on d'un. Quelle définition ou quelle place est-ce qu'il suffirait de se dire poète français pour appartenir à une nation et est-ce qu'un poète peut appartenir à une nation ou est-ce qu'il franchit toutes les frontières, est-ce que écrire de la poésie ce ne serait pas déjà vouloir franchir être ailleurs. Et j'aime cette idée d'être ailleurs. Même en ayant certains points d'ancrage, peut-être que c'est cela, écrire, c'est être ailleurs. Pas dans l'idée d'une évasion, comme on dirait, d'une lecture qu'il vous fait oublier la réalité, mais être ailleurs dans le sens où on est en rupture avec le monde. Et je crois que c'est un mot que j'ai toujours aimé, cette idée d'être en rupture avec tout.
Est-ce qu'il y a de ce point de vue-là, pour vous, une spécificité du poème, ou est-ce que, ou non, c'est-à-dire, est-ce que quand vous lisez Hölderlin, Rimbaud ou Nerval, quand vous avez affaire à quelque chose qui est signifié comme étant de la poésie, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui compte, ou est-ce qu'au fond, quand vous lisez Victor Hugo, comme vous en parlez très très bien, quand vous rappelez vos premières lectures d'enfance, au fond, est-ce que ça compte, ça, ces histoires de poésie, de romans, de...
Oh, je ne crois pas du tout en la séparation des genres. Certaines lettres d'Artaud me paraissent parfois comme de véritables poèmes en prose. Et les carnets de Marina Svetayeva aussi, ce sont aussi des concentrés de poésie. Mais c'est toujours aussi étonnant quand on dit d'un roman qu'il est d'une intensité poétique, etc. On a l'impression que c'est simplement parce qu'il est un peu fumeux ou un peu lyrique ou d'un lyrisme un peu forcé. Mais il ne suffit pas de convoquer quelques mots comme l'éternité, la mort qui vient avec sa faucheuse pour que ce soit poétique. Donc, mais je crois que même des textes de Thomas Bernhard, qui écrit dans une langue extrêmement qui a une certaine brutalité dans l'expression de quand il écrit ses romans, me paraissent aussi poétiques dans le sens que définirait Trakl. Mm-hmm. Donc je ne vois pas les frontières entre entre la poésie et le roman. Et je ne considère pas non plus que la poésie soit, qu'il y ait une sorte de suprématie de la poésie sur le roman.
Vous ne diriez pas que, pour faire le lien avec ce que vous disiez à l'instant sur l'importance à vos yeux de la rupture, vous ne diriez pas que dans certains cas, l'accomplissement de cette rupture est porté à son sommet, précisément peut-être dans certains poèmes ou dans certains événements de langage où le mot de poésie vient à la bouche parce que voilà, ça vient comme ça.
Oui, quand il y a une sorte d'insurrection, oui, presque d'insurrection des mots, et quand il y a des ce que prônait beaucoup André Breton, c'était la manière de faire qu'il y ait des courts-circuits dans le langage.
La convulsion.
La convulsion et les courts-circuits dans le langage. Et à ce moment-là, le texte possède cette étrangeté qui peut-être est peut-être qui peut être une définition de la poésie.
Peut-être pouvons-nous
clore,
je cherchais le mot, conclure, clore, par un extrait d'In Memoriam, donc, qui est le dernier.
Je serais devenu fou si je n'avais pas écrit ce livre. La folie me guettait cependant. À peine l'avais-je terminé que je le brûlais. Mener à bien l'œuvre de sa vie et la détruire, est-ce extravagant ou sensé? Je n'avais pas besoin de me poser la question. J'oscillais entre le rêve et la réalité. J'avais pendant un moment une perception aiguë de tout. Puis la minute d'après, je me demandais qui j'étais. Je restais parfois des heures entières à regarder à la gueule avec l'envie de me trancher la gorge. Je serrais le couteau dans ma main et je fixais le reflet de mes yeux dans la lame. Je ne m'aventurais plus hors de chez moi. J'aurais été capable de poignarder le premier passant croisé et ça aurait été, bien sûr, une passante. Une jeune fille longiligne qui se serait mise sur mon chemin pour me dire « Tue-moi si tu l'oses ». Je me méfiais de moi-même, de l'état dans lequel j'étais, où l'exaspération coudoyait la stupeur. La nuit, je ne dormais pas, je me tenais aux aguets, à l'écoute des soubresauts de mon être. J'étais dans un grand isolement que j'avais créé moi-même. J'avais sommé les rares amis qui prenaient encore de mes nouvelles de me laisser en paix. Mais cette tranquillité, je la cherchais en vain. Tant que je noircissais des pages, je parvenais encore à croire à l'éventualité d'une renaissance. Ma tâche remplie, je me retrouvais face à un magma de mots, et ce qui aurait pu me fortifier provoqua un abattement comme je n'en avais jamais connu auparavant. Assis sur mon lit, hébété, je marmonnais. Quand je me reprenais, je tombais dans l'excès inverse. J'allais et venais dans une affreuse agitation. Je fumais cigarette sur cigarette jusqu'à en avoir la nausée. J'avais peine à rassembler mes idées. Ma tête s'était échappée et me jouait des tours. Mon corps ne manifestait sa présence que pour me narguer. Lequel de nous deux aurait-il le dessus? Si ce devait être lui, je me changerais en momie. Je tirerais les épais rideaux de mes fenêtres et dans l'obscurité la plus totale, me leverais en chien de fusil, ne sortant plus de cette position. J'avais commencé à œuvrer, pas seulement comme on s'agrippe à une planche de salut. J'aspirais à me fondre dans ces pages pour n'être plus rien, ne plus me répéter cette phrase « Elle s'est tuée », qui sonnait le glas d'une histoire dont je n'avais jamais maîtrisé le cours. Le manuscrit s'intitulait « Tombeau de Sola ». Nous l'appelions Sola parce qu'elle était solitaire et seule, d'une solitude souveraine. Sola s'était donné la mort un matin de printemps. Aucune lettre, pas même un laconique « Pardonnez-moi », n'avait été découverte près d'elle. Et ce refus de toute justification, ce dédain du monde qu'elle quittait, pesait lourd dans la balance. Rien ne permettait de prévoir que ce lundi d'avril, elle allait en finir d'une manière aussi violente. Je dis que rien ne présageait une telle décision. J'aurais tout aussi bien pu dire qu'au plus intime de moi, je savais depuis toujours que sa vie s'achèverait ainsi. Elle n'avait pas écrit de mots d'adieu, mais elle avait, avant de nouer la corde pour se pendre, téléphoné à mon frère, Thomas, pour l'inviter, sans rien trahir de ses intentions, à venir chez elle. C'était lui qui avait décroché le cadavre. C'était lui et non moi qu'elle avait choisi pour la toucher une dernière fois. Jusqu'au bout, elle m'aurait exclue. Et cela m'avait rendu fou de douleur. La guerre amoureuse qui s'était engagée entre nous trois se solda par le couronnement de Thomas, sacré vainqueur. Parce que, en l'appelant avant de se suicider, en lui disant de sa voix calme, passe dans une heure, elle m'avait signifié qu'elle m'avait toujours tenu pour un farceur et qu'en cet instant suprême, elle n'accordait sa confiance qu'à mon frère. Pendant des jours, je tentais de me persuader qu'elle avait eu une pensée à mon endroit, qu'elle avait eu la délicatesse de m'épargner la vue de son corps inanimé. Mais rien ne me servait de bercer de chimères. C'était d'une évidence criante que Thomas était l'élu. Quelques lignes qu'elle m'aurait adressées auraient cependant suffi à constituer pour moi un rempart contre la détresse. Quand j'appris la nouvelle, non seulement du suicide, mais de la visite de mon frère, à qui avait été concédé le privilège de lui parler avant sa mort, je me mis à haïr cela. Elle était partie sans une explication, comme si je ne valais pas la peine d'une lettre. Il ne fallait pas attendre d'elle un « pardonnez-moi ». Elle était trop convaincue de la légitimité du moindre de ses actes. Mais elle aurait pu me dire au revoir, m'assurer qu'elle m'avait aimé, même en ajoutant qu'elle aimait aussi Thomas, de façon différente, avec moins d'ambivalence. Elle s'en était abstenue. Elle avait tiré sa révérence en me claquant la porte au nez. Et moi, glacée d'effroi, j'avais pour tout l'aigle ce silence assourdissant. La tragédie était consommée. Sola m'avait tourné le dos. Mon frère se drapait dans son chagrin de veuf. Je les haïssais tous les deux. Le tableau qui s'offrait à moi montrait mon frère versant des larmes sur le cadavre de cette femme qu'il m'avait volée et qu'il avait nommée, lui, au dernier moment, comme étant le survivant le plus proche d'elle. C'était répugnant. Ils étaient répugnants l'un et l'autre. Ils m'avaient tenu à l'écart, comme des parents tiennent à l'écart leur enfant pour fricoter dans leur chambre. J'avais prévenu mon frère que je n'assisterais pas à la cérémonie d'incinération. Thomas avait enregistré des morceaux de Schumann pour accompagner Sola vers l'au-delà. Tels avaient été ses propres termes. Pour l'accompagner dans son retour à la poussière, avais-je rectifié. Il avait haussé les épaules et enchaîné. Il n'y a pas de paradis pour Sola. Elle n'aurait pas supporté le paradis. Elle est dans le 7e siècle de l'enfer, dans la forêt des suicidés, et je veillerai à la perpétuation de son nom. J'avais ricané. Il s'était arrangé de sorte à être le seul qui s'occupait d'elle, de sa dépouille, de ses funérailles. Moi, je me tairais dans mon appartement, défaisant et refaisant l'histoire. Si cela m'avait dit « passe dans une heure », je serais vite accourue et je l'aurais sauvée. Mais aurais-je vraiment été en mesure de la sauver? Peut-être était-elle arrivée à un point de non-retour, sans que mon frère et moi, aveuglés par notre foi en son aptitude à rebondir, l'eussions pressenti. Plusieurs fois, Mon instinct m'avait alerté. Évoluant tout comme moi sur un fil, elle pourrait bien céder au vertige du vide et prendre le parti d'abréger ses jours. Mais jusqu'à ce printemps, elle avait réussi à ne pas succomber au chant captieux de son ange noir. Elle venait de mettre le point final à un récit. Je savais ce qui lui avait coûté, tout en priant pour que cet aboutissement de ses efforts fût un filet protecteur qui l'empêcherait de sombrer. Le matin où elle se pendit, je m'interrogeais précisément sur ce manuscrit. À sa place, j'aurais été fière de moi, orgueilleux de ce que j'avais accompli. C'est pourquoi je ne voyais pas clair dans ce que je considérais comme une démission. Son dernier roman paru m'avait révélé, même à moi qui n'étais pas facilement démonté, combien son imaginaire, riche en guet-apens, bousculait le lecteur dans son confort. Et voilà qu'elle en avait poli un autre qui était à coup sûr tout aussi dérangeant. Les deux livres auraient dû signer sa victoire sur le néant. L'œuvre ultime avait été arrachée à la nuit, après des mois où, amorphe, mutique, elle s'était enfoncée dans le marasme. Durant cette période, je n'avais aucun doute que c'en était fait d'elle. Elle nous avait comblés de 4 ouvrages, et brusquement, tout s'était arrêté. Thomas, installé chez elle, l'a forcée à manger, l'a lavée, l'a couchée. Là encore, c'était lui qu'elle avait tacitement désigné pour rester près d'elle. Elle était assise, aussi immobile qu'une souche, mais quand je la touchais, elle portait la main à son visage et se cachait les yeux. Ma présence l'incommodait. Comme à l'époque, j'avais en chantier une brève chronique qui était ma dernière chance, où je terrassais celui en moi qui me tenait en échec, où je jetais l'éponge, abandonnant pour de bon la littérature. Je m'étais effacée devant Thomas et avais limité mon empressement à de brèves visites qui, au fil des jours, renforçaient ma certitude. Cela était à bout de course. Après les 4 contes grinçants qu'elle avait parfaits, nous n'aurions plus une ligne d'elle. Je l'avais déjà vue terrifiée ou égarée, mais là, elle était sans vie. On aurait dit un mannequin d'osier que mon frère déposait le matin dans un fauteuil et le soir étendait sur le lit. Avait-elle seulement conscience que Thomas était à ses côtés? En tout cas, elle ne voulait pas de moi. Peut-être, même si elle était étrangère au monde réel, savait-elle dans un coin de son cerveau brumeux ce que je préparais. Que je fusse obnubilée par mon nouveau pari la torturait. Nous avions toujours été telles les deux faces d'un miroir. Quand elle travaillait d'arrache-pied, j'étais à sec. Quand elle déclarait forfait, j'étais en veine. Mais quelle que fût la situation, je me croyais toujours dans l'obligation de lui démontrer que je tendais au même principe d'exigence qu'elle. C'est pendant ces longues semaines où elle s'était retirée dans un no man's land auquel je n'avais pas accès que j'avais eu peur pour elle, peur qu'elle ne se tuât. Mais elle n'avait plus de volonté, pas même pour se suicider. Tout son être criait non. Elle ne se rappelait probablement plus qu'elle était l'auteur de 4 merveilles. À elle, je n'avouais pas mon admiration, sauf au commencement. Au contraire, je me plaisais à soutenir qu'elle n'était pas allée au bout d'elle-même. J'escomptais qu'elle riverait le clou à tous ses détracteurs en concevant le livre. Il était vrai que je n'avais cessé d'espérer quelque chose, qu'elle choisît entre mon frère et moi, et elle ne pouvait que me préférer, pas uniquement parce que je me mêlais de littérature et que Thomas n'éprouvait jamais ce sentiment de déroute quand les mots vous lâchaient, mais aussi parce que, pareil à elle, au moins sur ce point, j'avais la terreur de vivre et la rage de m'affirmer. J'étais son jumeau, lui avais-je dit une nuit où elle m'avait narré la légende d'un D-book. Elle m'avait détrompée. D'après elle, nous ne nous ressemblions pas du tout. Mon rêve de toujours, celui de m'allier à un alter ego, s'évanouissait. Je lisais, plus qu'une fin de non-recevoir, de l'indifférence dans son démenti. Elle ne daignait pas faire corps avec l'univers que je construisais pour nous. Je mis du temps à admettre qu'elle se protégeât de toute relation fusionnelle. Elle craignait d'y être engloutie, et cette crainte l'amenait à se partager entre Thomas et moi, à délaisser l'un pour l'autre, puis à fermer la porte à tous deux, afin de tenir conciliabule avec les personnages de son invention. Je m'interdis de prendre part à la cérémonie d'incinération et je déclinai la proposition de rédiger pour un journal la nécrologie de Sola. Cette attitude me valut une volée de bois vert. Les amis de la défunte critiquèrent ce manquement à mes devoirs. Mais moi, je comptais sur son indulgence. Elle non plus, si je m'étais tuée, ne m'aurait pas enterrée en quelques feuillets. Sola s'en est allée et il me faut enquêter sur les raisons qu'elle a eues de s'esquiver sans un adieu, avais-je dit à mon frère. Dès qu'il m'avait annoncé la mort de Sola, je lui avais lancé. « As-tu mis la main sur son dernier livre ? Qu'en est-il de son manuscrit ?» Thomas avait répliqué « Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. » Et il avait ajouté « Ses papiers, je m'en fous à l'heure qu'il est. Tu ne te rends donc pas compte qu'elle s'est suicidée. »
Merci beaucoup, Linda. Le dernier mot revient au silence.
J'ai peur de chercher longtemps et j'ai pas compris. Retrouver les archives sonores, alors, c'est ça.
Oui, absolument, bien sûr. Vous mettez sur le site de la bibliothèque. L'adresse est indiquée.
Quand vous écrivez, est-ce pour combler cette distance ?
Est-ce que je comble la distance ? C'est pas. Je pense qu'il y a peut-être une reconquête du terrain. Être ailleurs, oui, aussi une manière de j'entendais aussi une manière d'être presque d'être dépossédée de ce que je de ce que peut être ma vie et finalement peut-être que le résultat final a supposé qu'il y ait un résultat et qu'on aboutisse à quelque chose. C'est peut-être des retrouvailles, oui, plus que de combler la distance. Mais d'un autre côté, j'aimerais aller toujours plus loin et être ailleurs, mais de plus en plus loin, à chaque livre.
Oui, bonsoir. Deux constats et... une question. Premier constat, j'ai beaucoup aimé le passage. Ça me rappelle François Schoenaerts, Les leçons de ténèbres.
Il faut parler plus fort, monsieur.
Je ne l'ai pas entendu.
On ne comprend pas ce que vous...
Deux constats et une question. Premier constat, j'ai beaucoup aimé le passage que vous avez lu, là, à l'instant. J'ai retrouvé François Schoenaerts, Les leçons de ténèbres. Le deuxième constat, c'est que j'aurais préféré, parce que c'était un passage sur le suicide, retrouver la gravité qu'il y a dans la fin des illusions perdues. Et puis la question, c'est est-ce que c'est de la littérature narcissique, sans être péjoratif, votre littérature ? Est-ce qu'il y a une peinture sociale ? Est-ce que c'est, ou c'est strictement narcissique ? Moi je. Merci.
Je J'essaie de résumer votre question parce que c'est un petit peu. Vous vous demandez si ce livre dont Lindalé vient de lire un extrait est simplement un livre tourné sur un jeu ou est-ce qu'il est ouvert sur une dimension sociale, n'est-ce pas ? C'est ça ? Oui ?
Non, excusez-moi, je prise guère les romans sociologiques, donc le livre est très loin de cela.
Bonsoir. On parlait beaucoup de littérature, or dans le dernier roman, In Memoriam, il me semble aussi que les films, certains films sont en toile de fond. Je voulais savoir dans quelle mesure le cinéma vous influence-t-il aussi dans l'écriture ?
Je crois qu'il me nourrit. Il y a beaucoup de séquences de grands films qui me sont restés en mémoire et qui m'accompagnent. Je vais revoir beaucoup de films que je vois. Il y a certains films que je vois plusieurs fois. Mais je me refuse à écrire des livres qui seraient d'une écriture cinématographique. Si on entend par là l'usage d'un style télégraphique et très rapide et visant à l'efficacité visuelle. Donc, je pense que c'est une passion avant tout, une passion qui m'accompagne, mais je sépare quand même la littérature et le cinéma. Et la plupart du temps, sauf quelques très rares exceptions, j'ai toujours été déçue par les adaptations de romans au cinéma. Peut-être que les plus réussis, ce sont les films qui partent d'un roman, mais qui l'adaptent très très librement.
Mais qui créent leur propre.
Oui, voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors moi j'avais une question qui concernait qui concerne davantage la façon dont vous vous exprimez ce soir. Je suis frappée de vous avoir entendu dire à plusieurs reprises je me refuse à avoir une écriture cinématographique, je me refuse à une littérature égotique, et je me demande d'où vient ce refus. Est-ce qu'il y a une crainte ou si c'est...
Non, je crois que ce n'est pas une crainte, c'est plutôt j'ai l'impression que je dois me fixer pas des limites, mais pour moi c'est comme une forme d'éthique presque, des règles que je me fixe et à partir desquelles j'essaie de faire quelque chose qui ne cède pas aux facilités. Je ne veux pas suivre une pente.
J'avais une autre question. À un moment donné, vous avez dit que vouloir être lu, c'est une idée qui ne doit pas précéder l'écriture. Est-ce que justement... Vous n'êtes pas parti de cette idée quand vous avez écrit vos trois premiers romans, que vous avez reniés d'ailleurs. Est-ce que justement vous ne les avez pas reniés pour cette idée ? Peut-être que l'idée d'avoir votre nom sur une couverture, peut-être avoir un besoin de reconnaissance, ou est-ce que justement c'est pour cette raison que vous les avez reniés ?
Non, je les ai reniés surtout parce que je ne m'y reconnais plus. Je pense que c'était... C'était pas le... Je ne me reconnaissais plus à un moment. il y a eu une cassure dans ma vie. Et à partir de là, j'ai décidé d'écrire d'autres livres. Et d'abord, j'avoue que j'ai totalement oublié les trois premiers. Donc, bien sûr, je sais de quoi j'ai parlé dans ces trois livres, mais je ne m'y reconnaissais plus, comme si c'était un miroir qui me renvoyait un visage qui m'est totalement inconnu. Donc je les ai reniés, mais c'est sans douleur. Je me sens pas. Je ne me sens pas ni coupable de les avoir écrits, ni et je n'ai pas non plus de remords non plus. La seule chose, c'est qu'ils ont été publiés. Peut-être que si je les avais gardés sous forme de manuscrits dans un tiroir, j'aurais eu plus d'indulgence pour eux, parce que quand on garde des textes non publiés dans un tiroir, on a toujours une affection pour eux, on a l'impression qu'ils sont plus parfaits qu'ils ne le sont. Donc voilà, ils ont été publiés et je les ai reniés. Mais renier est peut-être un peu un terme un peu fort, c'est-à-dire que bon, moi, je ne les fais plus figurer dans ma bibliographie. C'était des tentatives.
Des essais de voix.
Voilà. Vous disiez. Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vais vous poser une question, enfin deux questions en une, très simple, très concrète. Mm-hmm. Je voulais savoir simplement un petit peu comment vous écrivez et qu'est-ce qui déclenche l'écriture.
Comment j'écris ? Longtemps j'ai écrit à la plume.
Dans quelles circonstances, en fait ? Comment ça se passe un petit peu ? Mais je ne veux pas être indiscrète.
Je travaille tous les jours. Et quand tout se passe bien, de manière continue, toute la journée, même parfois s'il faut rester sur une phrase pendant 12 heures. Quant à ce qui provoque, ça peut venir de différentes manières. Ça peut être un rêve, ça peut être... mais c'est toujours une obsession qui prend forme, une obsession qui devient exigence, qui quelque chose qui me tarabuste.
Est-ce que c'est un besoin absolument impérieux ?
C'est une grande exigence, oui. Oui.
Merci.
Une dernière question.
Je voulais savoir aussi si, quand on dit de vous que vous êtes une écrivaine vietnamienne francophone, que pensez-vous de cette qualification ?
Je crois que je préfère me dire auteur tout court. Voilà.
Est-ce que vous lisez d'autres écrivaines comme Kim Lefebvre, Anna Moy ? Est-ce que vous les connaissez ?
Non, je ne les ai pas lues. Non. Non.
Parce que souvent, dans les travaux universitaires ou critiques, il y a beaucoup d'articles qui vous comparent à Kim Lefebvre. Je voulais savoir justement si vous la connaissiez ou pas.
Non, je ne l'ai pas vue.
D'accord.
Je ne l'ai pas lue, non.
Cette fois-ci, la toute dernière.
Oui, vous parlez d'être en rupture avec la vie quand vous écrivez, ou vous avez parlé de rupture. Alors j'ai une question un petit peu générale à ce sujet-là. Est-ce que écrire, c'est... Et créer, en général, est-ce que c'est être hors de la vie ? Ou est-ce qu'écrire, c'est la vie ? Est-ce que...
Je crois que c'est le paradoxe, c'est-à-dire que... Est-ce que... Enfin, écrire et vivre pour moi sont totalement C'est inextricablement lié. Et mais est-ce que on écrit en s'extrayant de la vie pour écrire justement quelque chose qui est quand même, qui contienne quand même de la vie? Donc tout le paradoxe est là. C'est vraiment de s'extraire. Je pense que c'est plutôt s'extraire de la pesanteur de l'existence, et mais pour pouvoir écrire quelque chose qui contient peut-être plutôt la quintessence de la vie.
Est-ce qu'on renonce pas un peu à, est-ce qu'on renonce pas à quelque chose? Est-ce que c'est pas un choix de renoncer à vivre les choses autrement ou...
Mais je pense que même en n'écrivant pas, on renonce à la, on renonce aussi à des choses. Donc, s'il y a renoncement, s'il y a une certaine assaise, je crois que l'assaise est nécessaire pour l'écriture, des habitudes assez monacales. Mais cette assaise, finalement, il y a là une certaine ferveur aussi, et une certaine ouverture aussi vers ce que peut être la vie qui contrebalance cette assaise.
Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn Dallet.
Merci.
Merci à tous.